Sud Radio, midi 14h, Alexis Poulain sans réserve.
Le français a été la langue de la diplomatie occidentale pendant près de 200 ans.
Les présidents russes et états-uniens ont échangé sans avertir l'Union européenne, l'OTAN ou même l'Ukraine.
Tous les traités internationaux et les lettres entre chancelleries sont rédigés dans cette langue perçue comme très précise.
On doit être présent, on réclame au moins un strapontin.
Cela est dû au rayonnement culturel de cette langue.
Il vient sur la grande muraille, conquiert la bravitude.
Malheureusement, apparemment, ça ne marche pas comme ça.
Tout d'abord, vous devez obtenir une réponse de Macron pour savoir s'il y aura des troupes ou non.
Ce que je vais faire, c'est je vais lui dire.
Ensuite, nous parlerons des conséquences.
Tu peux pas être faible face au président Poutine.
Ça, c'est des trucs de trouillard et t'en es pas un, toi.
Ah, attends, par contre, je vais t'arrêter tout de suite.
C'est pas toi, c'est pas ta marque de chapelle.
Je vais t'expliquer un truc, moi je suis un nerveux. Donc là, à tout moment, ça part. En fait.
Et voilà l'œil du tigre pour parler de diplomatie. On va évidemment parler de cette vidéo TikTok où le président de la République répondait en direct aux questions des internautes sur l'Ukraine. Et puis on parlera en deuxième partie d'émission avec Alexandre Delval, géopolitologue, de la place de la France dans le concert des nations. On va aussi recevoir Alexandre Jardin et Morgane Trintignant pour parler des ZFE et aussi de ce nouveau mouvement des lanternes rouges pour ces commerçants qui en ont marre d'être finalement les esclaves hein, de l'État qui leur prend toujours plus. Et puis, on aura également avec nous Guilain Benessa, avocat, auteur de On marche sur la tête, pour parler du cas Bayrou et de l'état de la démocratie française. Pourquoi nous en sommes là aujourd'hui avec un budget, certes, un gouvernement, certes, mais un pays dans l'embarras, pour ne pas dire dans l'impasse. On est sur Sud Radio ensemble jusqu'à 14h. 0826-300-300 si vous souhaitez appeler le standard et réagir. À tout de suite.
Alexis Poulain, sans réserve, l'invité.
Et on va commencer avec deux invités pour parler d'abord des ZFE, des zones à faible émission ou zones à forte exclusion, selon comment on les voit, avec Alexandre Jardin, écrivain qui a pris cette cause et qui souhaiterait qu'un mouvement populaire prenne le dessus. Et puis Morgane Trintignant, patron de bar, qui lance le mouvement de la lanterne rouge pour demander aux commerçants de mettre une lanterne devant leur commerce pour dire stop, stop aux taxes. D'abord, Alexandre Jardin, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Alors, ces ZFE, elles sont pour vous une aberration. L'idée, en fait, n'étant pas de la qualité de l'air, mais plutôt le tri social des gens. Ce ne sont pas les voitures, mais les gens que aujourd'hui, avec ces zones d'exclusion, les villes veulent faire. Quel est le but de ce mouvement ?
D'abord, c'est pas mon mouvement. C'est un mouvement qui naît du fond du pays. Puisque, en fait, quand on regarde à peu près, depuis le 1er janvier, il y a plus de 12 millions de véhicules qui sont interdits d'accès dans les ZFE. Or, on imagine bien que si les gens ont des voitures anciennes et qu'ils entretiennent et qu'ils passent les contrôles techniques, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter une R5 à 35 000 euros électrique.
Bien sûr.
Enfin, c'est évident. Bon, là, je suis dans un département, je suis dans l'Aude. Dans mon village, 90% des gens ont des voitures qui ne pourront pas rentrer dans les grandes villes. Donc, en fait, c'est une des plus grandes lois de ségrégation sociale de l'histoire de la République. Or, ce qui est terrifiant, c'est que le projet républicain, il reposait sur l'inclusion de tous.
L'égalité.
Oui, et puis l'inclusion de tous. C'est-à-dire... Et non pas la mise en place d'une exclusion sociale massive, parce que derrière les 12 millions de véhicules, vous avez plus de entre 22 et 26 millions de gens. Quand vous incluez les couples, les enfants, donc de manière directe, ça affecte à peu près un tiers de la nation. Et ce qui est... Mais c'est un truc de fou, en fait. Non, mais c'est vraiment un truc de fou, parce que tout simplement, la voiture, ce qu'ont oublié les dingues qui ont mis ça en place, tout le monde est écolo. Je veux dire, personne ne veut flinguer la planète. Mais personne n'a été d'accord pour que, dans cette lutte légitime, on se mette à organiser la ségrégation sociale. Or, ce qu'ont oublié ces gens, c'est que la voiture, les gens qui nous écoutent le savent parfaitement, c'est le travail. Là, c'est l'infirmière qui rejoint son CHU, et tous les CHU en France sont dans les ZFE.
Ouais.
Et pire que tout, ces allumés ont fait des cartes de ZFE qui incluent les autoroutes et les rocades.
Oui.
Ça veut dire que le gueux, et prier de rester dans son village. C'est ou ça. Alors, c'est 68 euros à l'aller. Alors, pour l'instant, les gens qui nous écoutent se disent, mais tiens, j'ai pas reçu encore de PV.
Parce que c'est l'année pédagogique. Hein. Pour le moment, on met en place, on explique qu'il va falloir faire des efforts. Attention, on a 25 jours, je crois, par an, hein, ou la veille, 24 heures avant, on doit
Mais c'est pire
je
que
viens
tout,
avec ma voiture de gueux demain dans votre ville de bourgeois. Mais c'est tout. Hein. Aujourd'hui,
oui, mais...
moi, ce qui me choque, c'est qu'il n'y a eu aucune réponse des politiques. Est-ce que vous avez eu des politiques qui ont pris la parole contre les ZFE?
Alors, il y a des partis qui commencent à déposer des demandes, soit d'abrogation, soit de repousser. Mais pour l'instant, il n'y a pas de majorité là-dessus. Et pour l'instant, l'État... Alors, ce qui s'est passé, par exemple, il y a 4 jours, vous avez la sous-préfète à Lyon qui a fait une descente dans Lyon avec des flics pour foutre des PV à tout le monde, histoire d'expliquer aux manants que maintenant, l'ordre règne. Mais il faut plaquer au sol cette fille... et le maire de Lyon, il faut les plaquer au sol. Parce que
c'était une opération c'était affreux de voir ça, de dire on est là pour vraiment montrer qu'on est là pour emmerder les gens en fait. Hein. C'est un peu ça.
Mais surtout les empêcher de travailler. Ouais. Alors il y a plein de gens qui me disent ah mais est-ce que vous pensez que ça va chauffer? Je leur pose juste une question. Au moment où ils vont allumer les appareils photos qu'ils sont en train d'installer pour lire les plaques, sérieux, est-ce que vous pensez qu'il y a les pères de famille et les mères de famille peuvent en France arrêter de travailler?
Ben non, c'est dingue.
Je veux dire, c'est une histoire. Ou par exemple là dans mon village, c'est drôle parce que ce matin je suis arrivé à la boulangerie, il y a un monsieur qui vient vers moi et qui me dit ah ben on va marcher samedi avec vous parce que effectivement, mais forcément dans ce genre de territoire tout le monde. Donc je voudrais juste dire que demain matin à partir de 10h. Un peu partout en France, sur toutes les places de mairie, Daniel Guichard a lancé une idée que j'ai trouvée simple, poétique, qui évite toute forme de répression. On va marcher. L'opération, c'est le hashtag « ça va marcher ».
Ouais.
On va marcher les mains dans les poches, tranquillo, dans le sens inverse des montres. C'est comme ça qu'en Argentine, ils ont viré les colonels. D'accord. En faisant des choses qui ne sont pas des manifs. Parce que ça braille pas.
Donc demain, à 10h devant les mairies, ça va marcher hein, pour dire stop ZFE. Alors, on va parler...
Dans le sens inverse des aiguilles.
Okay.
Et puis on veut dire aux Français, mais parlez-vous.
Oui.
Tranquillement. Mais c'est une manière de dire, on existe.
Oui, il faut arrêter de faire des lois sans nous. On va parler justement de ceux qui travaillent et qui n'en peuvent plus de travailler pour l'État, puisqu'on a avec nous également Morgane Trintignant qui lance un autre mouvement. Cette fois-ci, c'est les Lanternes Rouges. Bonjour Morgane, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il en retourne?
Bonjour Alexis. Alors, c'est vrai que après entendre Monsieur Jardin et ce qui arrive sur les ZFE, j'ai envie de dire, il y aurait une lutte par heure quasiment à faire dans ce pays tellement on marche sur la tête. moi, je suis très sensible à l'automobile pour des raisons familiales évidentes et j'aimerais que vous parler sur ce sujet plus tard en privé. Demain, je serai aussi sur la place de ma mairie pour marcher en rond.
Ça va marcher. 10h, demain, devant les mairies.
Hashtag ça va marcher. Si vous voulez, on touche à notre liberté. À toutes nos libertés fondamentales. Il y a des libertés qui seront jamais totales. On pourra jamais insulter qui on veut, dire ce qu'on veut tout à fait. Il y a les libertés, c'est compliqué d'être absolument libre. Mais la liberté de mouvement, la liberté d'entreprendre, ce sont des libertés simples. Dans la mesure où on ne fait rien d'illégal, tout est possible. Vous voyez, priver quelqu'un de sa voiture, priver quelqu'un de son entreprise, de son pouvoir d'entreprendre, C'est de la prison. C'est de la prison sans barreaux, quoi. C'est tout.
Vous pensez l'État, par sa politique d'impôts, est en train de faire fermer de nombreuses entreprises, hein, c'est ça?
Oui. De faire fermer, de dégoûter des gens d'entreprendre. Parce qu'il y a ça aussi. Hein. Je veux dire, quand sur 2 heures de travail, vous passez 1h15 pour l'État et 47 pour vous, vous vous dites, attends, moi, mes enfants, ça fait 2 heures que je les vois pas. Ma femme, ma maison, mon chien, ma vie, mes amis, mes loisirs, ce que j'aime, mes bouquins, et je suis en train de tapiner pour quelqu'un qui ne me protège pas. Parce que quand vous tapinez pour quelqu'un qui vous garantit une sécurité, qui vous garantit l'éducation de vos enfants, des relations internationales formidables, un réseau routier libre, de la liberté d'être, vous voyez, à la limite, je veux bien. Je veux bien que quand on est protégé, ça va. Mais l'État est un proxénète. est un proxénète vicieux.
Ça, c'est votre façon de voir les choses. Vous pensez que c'est comme ça que vous avez lancé les lanternes rouges pour dire stop, on n'en peut plus de travailler pour l'État, hein, c'est ça?
On travaille pour l'État. Les gens qui sont salariés travaillent aussi pour l'État, mais ils s'en rendent pas compte parce qu'on leur a appris à parler en argent net et pas en argent tout calculé.
Ouais.
Les commerçants bossent pour l'État. Les buralistes prennent 7% de chiffre d'affaires. Le reste est pour l'État. Moi, dans un bar, sur une bouteille de vodka que vous avez acheté 13 € TTC à Leclerc. D'accord. Le prix de la bouteille et de la vodka et du bouchon, c'est le prix de base de revient, c'est 1,50 €. D'accord. Tout le reste, c'est des impôts. D'accord. Voilà. Moi, je travaille avec ce produit-là que je paye plus cher que chez Leclerc parce que j'ai un fournisseur qui ne vend que ça. Donc, c'est pas son produit d'appel. Et là-dessus, je paye 20% de TVA comme tout le monde sur des produits comme ça. Mes produits sont surtaxés. Mon produit de base est plus taxé que l'essence.
Oui.
Mais par contre, aujourd'hui, ma profession représente 5% du débit de boisson en France, alors que la grande distribution, c'est 95%. Mais là, je parle de mon cas parce que je suis dans le monde de l'alcool, mais je serai dans d'autres domaines. Je pourrais vous en parler aussi, mais bon, c'est pas mon cas. Moi, j'appelle tous les gens qui travaillent en France, qui payent des impôts, qui sont des contributeurs nets, qui en ont marre de tapiner pour l'État et qui sentent qu'il n'est pas là pour nous défendre. Et si vous avez une voiture, eh bien, c'est pire. Est-ce que, par exemple, vous avez déjà un ami qui a une voiture de fonction de sa propre entreprise? Bon, il prend un PV. Ça peut arriver. À l'époque, il était à 92 km/h au lieu de 90. C'est un homme dangereux. Il faut qu'il soit sanctionné. Très bien. Donc, il est sanctionné. Il reçoit un papier qui lui dit « Payez votre amende. » Au représentant légal, avec son nom et tout, « Payez votre amende. Ouais. » Il paye son amende. Vous savez ce qui lui arrive? Eh bien, il prend une amende de 450 € parce qu'il n'a pas dénoncé le conducteur.
Ah, d'accord.
C'est son entreprise. C'est la seule voiture de l'entreprise. Elle est à son nom et elle est au nom de l'entreprise. D'accord?
Et parce qu'il n'a pas fait la démarche de dénoncer.
Parce qu'il faut être un petit peu vicieux comme eux pour comprendre qu'il faut d'abord dénoncer le conducteur en disant c'est moi le conducteur de l'entreprise, pas qu'un salarié qui est moi-même.
C'est beau.
Et pas vous recevoir la main à votre nom. L'État vous piège. Ça, c'est des millions d'euros par an qui nous prennent parce qu'ils nous arnaquent. L'État n'est pas bienveillant envers nous. Vous vous en rendez compte en tant qu'entrepreneur quand vous vous inscrivez au tribunal de commerce.
Oui.
Les premiers courriers que vous recevez, c'est les arnaques.
Des mecs qui vous disent... C'est vrai. Vous devez payer ça alors que c'est des faux trucs avec des faux en tête. C'est vrai que c'est une escroquerie organisée. Et puis après, il y a
tout... Est-ce que l'État vous protège de ça? Est-ce que l'État les enferme? Est-ce que l'État vous dit, attention monsieur, vous allez recevoir des courriers vicieux, mettez-les à la poubelle, nous, il y a marqué la Maria, c'est comme ci, comme ça. Pas du tout. On se fait arnaquer de... Tout le temps.
Mais justement, ça dit quelque chose, Alexandre Jardin, de cet État qui n'en a que faire des citoyens français. On voit bien que les lois sont faites sans nous. Les ZFE, on a l'impression qu'elles arrivent comme ça, qu'il n'y a jamais eu de consultation citoyenne. Monsieur Macron dit qu'il veut faire un référendum, qu'il commence par les ZFE, par exemple.
Je voudrais revenir sur... vous parlez de l'État. L'État, il a plein de composantes. Et il faut quand même savoir que l'écrasante majorité des maires sont en faveur des gueux, du mouvement des gueux. Mais forcément, parce que les gueux sont dans les conseils municipaux. Le président de l'Association des maires de France a, dès le départ, pris parti pour ce mouvement-là, contre les ZFE. Donc, il faut distinguer ce qui est vertical de ce qui est à portée de baffe et de régulation de vie, parce qu'on vit ensemble. Et en gros... l'écrasante majorité des maires, donc la base de la République, les manants de la République, l'écrasante majorité des maires sont complètement d'accord avec tout ça.
Ouais.
Ensuite, monsieur vient de dire quelque chose. Il a dit, mais c'est pas bienveillant. Or, il va bien falloir qu'on reconstruise un État bienveillant. Vous avez prononcé le mot clé. Or, pour qu'il y ait une bienveillance, quels sont les États qui ont un État à peu près bienveillant en Europe? Vous avez la Suisse. Pourquoi? Parce que il y a aucun exécutif qui peut gouverner sans faire attention, parce qu'il peut prendre un référendum d'initiative populaire dans le nez.
Il y a les votations.
Les votations populaires font qu'il y a une démocratie représentative normale et puis une démocratie directe. Et il y a un équilibre qui se fait entre le bas et le haut, il y a une reconnexion. Et en fait, ce que vous dites là, avec le mouvement des lanternes, vous dites clairement qu'il y a une déconnexion. Ce que je dis avec les ZFE, on dit qu'il y a une déconnexion.
Pareil.
Parce que c'est fait par des gens les ZFE, ça a été fait par des gens qui sont dans un univers mental qui n'est pas celui du pays. Très souvent, c'est des hauts fonctionnaires qui ont une paye qui tombe à la fin du mois, quoi qu'il arrive. Ils ont des bagnoles de fonction, ou ils sont dans des grandes villes où il y a des métros. Donc, ils sont dans une autre réalité mentale. Donc, si on veut sortir durablement derrière tous les mouvements et toutes les victoires qu'on va remporter, parce que la connerie ne peut pas gagner à long terme, il va bien falloir qu'on remette sur la table la question de la démocratie directe.
Oui.
On peut plus en passer par des trucs qui sont plus régulés. Et ce que vous dites dans votre mouvement des lanternes, c'est qu'à un moment donné, il va falloir qu'il y ait une bienveillance.
Oui, mais la bienveillance, elle ne va pas venir d'en haut. On a l'impression que là, il faut interpeller.
On ne va pas faire la révolution tous les 8 jours.
Bah, mais c'est bien le problème. On disait toutes les heures, il faudrait se mobiliser tellement les lois sont folles.
Mais, les auto-entrepreneurs ont failli passer à la casserole la semaine dernière.
Il y a eu
une grogne. Oui, mais en même temps, ça ne peut pas être un système de régulation, la grogne. Donc, moi, ce que j'ai trouvé très beau dans l'idée de Daniel Guichard, c'est de marcher parce que, d'abord, c'est paisible. Il faut que ce soit responsable. On va inviter les maires à venir parce qu'on va faire ça devant leur mairie.
On va.
Je sais que l'écrasante majorité des maires vont être avec les gens. Je le sais.
Ce sera demain à 10h. Hein. Ça va marcher devant les mairies dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça, c'est le mouvement contre les ZFE. Vous, Morgane Trintignant, quelles sont les actions prévues pour les lanternes rouges dans les jours et les semaines qui viennent?
C'est très simple. Les lanternes rouges, c'est un petit peu la première étape de notre mouvement. C'est d'abord de mobiliser et de sensibiliser les gens à ouvrir les yeux sur qui leur vole leur pain tous les jours, en fait. Hein, avec des contreparties très, très faibles. Et mon idée de base, c'est comme nous faisons le tapin pour l'État depuis des années en tant que commerçants, entrepreneurs, profession libérale et tous ceux qui sont contributeurs nets, on met une petite lumière rouge à la fenêtre la nuit quand on dort.
OK.
Parce qu'on n'a pas les moyens d'aller tenir le pavé toute la journée, à hurler des slogans et à taper avec des fonctionnaires qu'on paye pour qu'ils nous tapent dessus. C'est pas possible. On n'a pas le temps. Voilà. On travaille, on est obligé de tapiner parce que c'est comme ça, c'est la règle du jeu, mais on n'est pas content. Alors quand on va dormir, on va prendre une petite ampoule rouge, on y met un petit peu de vernis à ongles dessus, on prend une 2-3 watts, hein, pas plus, on la met à la fenêtre, vous voyez, derrière le rideau, là, comme ça, et on va se reposer. Et le matin, on l'éteint et on va bosser. On la met au commerce, à la vitrine, au bureau, dans la maison, à l'appartement, n'importe où, juste pour que de l'extérieur, on voit une lumière rouge. Comme à l'époque des bordels. Là aussi, il y en a qui tapinent. Comme ça, c'est une manière de se révolter.
Encore une fois.
Parce que la journée, on doit travailler. Voilà, c'est tout.
Très bien. Bah, merci beaucoup à tous les deux.
C'est à l'esprit.
Alors, donc voilà, deux mouvements hein, de ras-le-bol citoyen, parce que c'est clair que les lois deviennent folles et elles sont toujours là pour maltraiter. Merci à vous, Alexandre Jardin et Morgane Trintignant, d'avoir témoigné. Et je rappelle, demain, ça va marcher 10 heures devant les mairies. Et si vous êtes commerçant et que vous en avez marre de tapiner pour l'État, comme le dit Morgane Trintignant, une lanterne rouge devant votre commerce ou chez vous pendant la nuit. On va marquer une courte pause et on se retrouve dans un instant pour parler d'Ukraine et de ce live TikTok du président de la République hier soir. À tout de suite.
Alexis Poulain, sans réserve, l'édito.
Et on va parler de ce live TikTok, un direct du président de la République qui répondait aux questions des Français sur l'Ukraine. Il a commencé en présentant une carte de l'Ukraine à l'envers. Alors vous voyez, ici c'est effectivement les territoires que les... Ah pardon, c'est une carte de la France que les Allemands avaient pris à la France. Et puis il a ensuite fait tout un réquisitoire hein, pour plus de dépenses d'armement avec un grand emprunt pour que les Français investissent leur argent dans les armes de guerre. Des questions aussi sur le free speech, sur les fermatrolls russes. On va écouter. D'abord, il va la semaine prochaine, Emmanuel Macron, aux États-Unis, convoqué par Donald Trump. Voilà ce qu'il compte lui dire à Donald Trump.
Et donc, ce que je vais faire, c'est je vais lui dire, au fond, tu peux pas être faible face au président Poutine. C'est pas toi, c'est pas ta marque de fabrique.
Non, c'est pas toi. C'est pas toi, ça, Donald. Il faut que tu penses Rocky Balboa, l'œil du tigre, comme on l'avait mis en intro. Il va falloir y aller et rentrer dans l'art. Prends ça, Poutine. C'est un peu ça. Donc, un coaching de Donald Trump, c'est ce à quoi il faut s'attendre de la rencontre entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Ensuite, il répondait à des internautes sur TikTok, puisqu'il est devenu le président TikTok.
J'ai Laura sur TikTok qui m'écrit « Bonne soirée. Que pensez-vous de l'annulation des élections présidentielles en Roumanie ?» Merci Laura pour la question.
Ah bah il dit que c'est bien et que finalement c'est pas plus mal que quand les gens votent mal qu'il y ait des cours suprêmes pour annuler les élections. Évidemment, ça va dans le sens du discours de Jed Vance lorsque le vice-président américain s'est invité ou était invité plutôt à la sécurité à la Munich Security Conference, une conférence sur la défense en Europe et où il expliquait aux leaders européens que s'ils ont peur de leur peuple, il ne peut rien pour eux et que les valeurs européennes étaient en train d'être foulées aux pieds avec la censure des élections en Roumanie. Avec aussi l'attaque du free speech, cette liberté de parole. Voilà ce que dit Emmanuel Macron du free speech.
Il faut faire attention, il y a une espèce de faux discours qui est en train de rentrer là, qui est la défense du free speech. J'entendais le vice-président Vance, avec qui j'ai eu un échange très fructueux quand il est venu à Paris. Si le free speech, c'est en quelque sorte le fait qu'on peut dire tout et n'importe quoi, qu'on peut rouer de coups les gens sur les réseaux sociaux sans raison, qu'on peut tenir les pires discours antisémites et racistes, qu'on peut manipuler l'information en masse si on est fort, ça s'appelle pas la liberté d'expression. C'est pas vrai.
C'est pas vrai. Non, mais c'est pas ça la liberté d'expression. C'est aussi peut-être avoir une liberté d'opinion. Évidemment qu'il y a des choses qui sont régies par la loi, l'antisémitisme, le racisme, la violence, tout ça n'a pas lieu d'être ni dans la vie réelle, ni sur les réseaux sociaux. Mais la question de la censure, elle est centrale avec le DSA, avec aussi ce bouclier pour la démocratie emmené par Nathalie Loiseau, qui est proche de la galaxie des fondations Soros, qui voudrait voir des ingérences, mais jamais l'ingérence américaine. Et donc le free speech, quand c'est J.D. qui en est l'avocat, ça pose un problème à Emmanuel Macron. Et puis on se rappelle qu'Emmanuel Macron, lui, a utilisé sa liberté de parole, même en allant plus loin, et à une époque, en publiant sur les réseaux et à la télévision un entretien privé qu'il avait avec le président Poutine. C'était très mal passé, ça donnait ça.
Heureux de t'entendre, Vladimir. Merci pour ta disponibilité ce matin.
Et voilà, et c'était plus de 10 minutes d'un entretien confidentiel entre le président français et le président russe, publié comme ça pour expliquer que Vladimir Poutine disait n'importe quoi et que Macron devait le recadrer en termes de diplomatie. On a connu mieux, mais avec un ministre des Affaires étrangères qui ne prendra pas le ministre des Affaires étrangères russe si jamais il l'appelait et qui préfère ne pas lui parler, on voit l'état de la diplomatie française. D'ailleurs, Emmanuel Macron parle d'une nouvelle ère.
Et puis, on va devoir faire des choix. Et donc, au fond, le message que je veux vous passer, c'est qu'on rentre dans une nouvelle ère. On n'est plus sûr d'avoir ce qu'on appelle les dividendes de la paix, ce que nos aînés, nos grands-parents ont eu. C'est-à-dire un monde en paix où on pouvait, en quelque sorte, réfléchir pour nous-mêmes dans un monde où il n'y avait plus de risques. Le risque est là.
Le risque est là, mais le risque, c'est quoi? C'est de faire en sorte que de 2% du PIB, on passe à 5% du PIB de dépenses de défense pour l'OTAN, et puis que l'Europe s'arme et que on soit prêt, si jamais les chars russes venaient à aller jusqu'en Pologne et sur les Champs-Élysées. On a l'habitude de cette rengaine. Petite cerise sur le gâteau, pendant ce long direct sur TikTok, évidemment, le président de la République a évoqué les fermatrolles russes et l'incroyable histoire des punaises de lit.
Dès qu'il y a une information qui peut affaiblir la France, c'est démultiplié par 100, par 1000, par les Russes et leurs fermatrolles. Parfois d'ailleurs énormément de fausses informations pour retourner la tête des jeunes. On le voit d'ailleurs chez nous, la fameuse péripétie des punaises de lit, et ça a été signé, c'était des attaques russes.
Eh oui, c'est les Russes. Les punaises de lit, c'est les Russes. D'ailleurs, on va écouter ces fermatrolles russes qui ressemblent bizarrement aux chaînes d'infos en continu françaises qui parlaient
les
des
punaises de lit.
Pardon, on va lancer l'extrait tout de suite. Ah, attention, punaises de lit, un coup d'irrus.
Les punaises de lit ne font aucune distinction.
Il y a une recrudescence des punaises de lit du fait de la mobilité des voyageurs.
Comment éviter les punaises de lit?
Leur présence n'est pas due à un manque d'hygiène.
C'est un couple victime de punaises de lit.
La présence de punaises de lit dans les logements.
Punaises de lit.
Punaises de lit.
Punaises de lit. Punaises de lit.
Ah oui, des fermatrolles qui ressemblent fortement à nos chaînes d'infos en continu. Voilà, c'était à peu près ce qu'il y avait à retenir de ce exercice particulier que Macron va refaire avant de proposer un référendum. Eh bien, il répond aux questions en direct de Laura et des autres sur TikTok. Le président TikTok, on ne nous l'avait jamais fait. C'est la 5ème République, vous êtes bien en France.
Alexis Poulain, sans réserve, l'invité.
Et notre invité pour parler aussi de l'état démocratique et institutionnel depuis la dissolution est l'avocat Guilain Benessa. Bonjour.
Bonjour Alexis Poulain, bonjour.
Alors aujourd'hui on voit un Premier ministre, François Bayrou, qui n'arrête pas de s'enliser dans l'affaire Betaram, hein, cette affaire de violence et de pédocriminalité sur des enfants au sein d'un établissement d'éducation privée. Il a dit tout et son contraire, maintenant il accuse les gouvernements suivants de n'avoir rien fait, et on a l'impression que 80% de sa journée est consacrée à sa défense. Est-ce que c'est tenable selon vous, et est-ce que François Bayrou n'est pas là lui-même en train de creuser sa tombe?
Écoutez, c'est simple, pour revenir à l'origine, et il n'y a pas si longtemps en réalité, François Bayrou, il rêvait de devenir Premier ministre d'Emmanuel Macron en 2016-2017, avant donc la présidentielle de 2017. Il a voulu forcer la main à Emmanuel Macron, pour devenir Premier ministre. Enfin, il a le job en 2024 dans la situation que connaît la France, c'est-à-dire après une dissolution mystérieuse, voire énigmatique, voire invraisemblable, après la chute de Barnier. Donc, François Bayrou, il a toujours été, et c'est le dernier secours pour Emmanuel Macron, dernier recours.
Bayrou de secours, certains l'appellent de manière caustique.
Exactement. Donc, aujourd'hui, c'est très simple. L'équation, elle est maximale pour les deux. Elle est maximalement difficile à la fois pour Bayrou et pour Emmanuel Macron. Parce que si Bayrou ne tient pas, on ne voit pas trop ce que Macron va sortir de son chapeau dans un second temps. Alors, il y a la perspective d'une nouvelle dissolution en juillet, ce genre de choses. Mais bon, peu importe. Donc, il faut à la fois pour Macron que Bayrou tienne. Et je pense que François Bayrou va tout faire pour tenir parce qu'il rêvait du job depuis des années. Et justement, s'il y a 8 ans déjà, il était dans les starting blocks, il va tenter de tenir le plus longtemps possible. Maintenant, est-ce qu'il peut tenir? Vous savez, François Bayrou, on le sait, mais il faut le marteler, il faut le répéter, il faut comprendre. François Bayrou a l'ADN d'un homme de la 4e République. C'est-à-dire qu'il aime le compromis, la compromission, le dialogue, voire la discussion de salon. C'est un homme qui a l'habitude de composer dans ce cadre-là. Vous savez, sur le fond, François Bayrou est le plus à même de gérer ce genre de situation parce que depuis le départ, il a toujours été un homme de la zone grise, de l'entre-deux, de la discussion, du compromis. Là où, vous savez, quelqu'un de puissant en tirerait les responsabilités et partirait. Bayrou tiendra le plus longtemps possible parce qu'il a l'habitude de fonctionner de la sorte.
Ouais, mais on voit bien qu'il y a quand même au sein du gouvernement, hein, des dissensions, des choses où d'ailleurs les ministres peuvent s'exprimer à titre personnel, hein. On voit notamment Bruno Retailleau prendre la lumière en ce moment, et François Bayrou qui doit son existence aussi au Rassemblement National, hein, qui est suspendu au jugement qui va venir en avril sur les assistants parlementaires du FN à l'époque au Parlement européen. C'est ça aussi, ce temps-là de la politique politicienne qui fait qu'il peut tenir.
Absolument. Alors, vous avez totalement raison. Il faut bien comprendre que moi, je n'étais pas chez vous que j'ai eu l'occasion d'avoir maille à partir, mais tout de même, je répète la même chose depuis des mois. C'est qu'in fine, nous avons les hommes qui ressemblent, les hommes que nous avons actuellement ressemblent aux circonstances, comme souvent. C'est-à-dire qu'on est dans un temps post-dissolution, on ne comprend plus rien. Honnêtement, c'est un temps d'opacité où la démocratie est en train de crever, excusez-moi du terme, mais faut être clair, où la démocratie n'en sortira pas vainqueur. Et en même temps, on a un jeu institutionnel qui fait que les partis composent, les hommes doivent composer, et bien tout le monde se tient dossier par dossier, petite phrase par petite phrase et arrangement par arrangement. Regardez cette semaine, c'est hallucinant ce qui se produit. En même temps que François Bayrou est acculé et où certains risquent de demander sa tête ou la demandent déjà, on a l'ARCOM qui décide clairement de couper C8, le robinet C8 sous prétexte qu'on ne peut plus entendre une chaîne de cette nature. Et en même temps qu'on a tout ça, on a le choix de Richard Ferrand qui passe grâce au RN à une voix près, qui devient président du Conseil constitutionnel. Alors que imaginez une seconde que Vladimir Poutine ou qui que ce soit de condamnable d'ici eût choisi un personnage comme Richard Ferrand à la tête d'une institution de la sorte. On aurait tous crié, tout le monde aurait crié au coup de canif contre l'état de droit et à tout ça. Ça veut dire que le caractère ubuesque de la situation souligne l'absurdité des institutions françaises qu'Emmanuel Macron a petit à petit flingué, ou en tout cas envoyé par-dessus bord, envoyé paître grâce à une dissolution dont on comprend, on n'a jamais rien compris. Et d'autre part, parce que finalement, les hommes que nous avons aujourd'hui sont des hommes et des partis qui se tiennent dossier par dossier dans une cohue d'infresse et une cacophonie dont plus personne ne comprend rien. Et alors, Moi, je mets à la place du citoyen qui voit tout ça et qui se dit « J'ai voté pour la clarté des institutions. J'ai une conscience qui devrait fonctionner à l'endroit. J'ai des institutions qui sont claires. Et pourtant, tout est devenu trouble, opaque, incompréhensible. Et je pense que surtout, il y aura une désaffection à l'égard de la politique qui ne va faire que croître. C'était hier un abîme, un fossé plutôt. Je pense que demain, ce sera, je ne sais pas ce qui restera d'une France en lambeaux.
Justement, on voit ce saccage institutionnel depuis le premier mandat d'Emmanuel Macron avec un non-respect de la fonction de la présidence, qui est censée être la clé de voûte des institutions. Un casting calamiteux, nominatif. Après nomination, Richard Ferrand étant le dernier avatar de ces nominations tragiques, des conflits d'intérêts au plus haut sommet de l'État, dans l'affaire Nestlé-Waters, mais aussi avec Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée. Et puis, la question qui va se poser, comme vous dites, le désamour, ou du moins la rupture définitive entre de trop nombreux Français et la classe politique, qui continue de discuter. François Bayrou aime s'entendre parler, alors que la France s'est endettée à hauteur de 3400 milliards, et ça ne fait qu'augmenter. Grâce à cette équipe formidable, comme si tout ça n'existait pas. Et puis on nous dit qu'il faut continuer une nouvelle réforme des retraites et puis qu'il va falloir s'attaquer ensuite à l'assurance maladie. Mais pendant ce temps-là, ça discute et rien. C'est étonnant quand même.
Alors je vais vous dire, non, ça ne l'est pas. Alors c'est tristement cohérent. Juste une anecdote et on comprend, pour moi, qui est très révélatrice. Lors de son audition, Richard Ferrand a sorti les rames pour tenter de justifier de son incompétence professionnelle, en tout cas juridique, et raconter tout plein d'histoires pour justifier de sa présence ici. Passons. Et il a notamment dit, vous savez, le Conseil constitutionnel, c'est formidable, c'est le garant de l'État de droit, oui. Depuis une grande décision de 1971, je ne vais pas faire une archéologie ici, mais pourquoi je raconte ça? Cette fameuse décision qui est, semble-t-il, le moment où le Conseil constitutionnel est devenu le phare des libertés fondamentales, c'est une décision 71 qui résulte d'un conflit lamentable, entre le gouvernement Pompidou à l'époque et le président du Conseil constitutionnel d'époque qui ne supportait pas Georges Pompidou et notamment qui a tenté de régler des comptes sur une obscure affaire de, vous savez de quoi, de décoration et de décoration, honorifique ouais. Qui n'avait pas donné à telle et telle personne. Pourquoi je raconte ça? Parce que ça veut dire que depuis 70 ans, une institution comme le Conseil constitutionnel a été, s'est arrogé tout un tas de droits et d'interprétations, etc., au travers d'une sombre affaire de clientélisme lamentable et politicienne.
Voilà, on en 70 ans. Et
70 ans.
Et Richard Ferrand nommé pour 9 ans à la tête de cette institution. Donc on a de quoi se faire des cheveux gris. On va marquer une courte pause, Guilain Benassa, et se retrouver avec vous dans un instant. Si vous souhaitez appeler le standard 0826-300-300. À tout de suite sur Sud Radio.
Alexis Poulain, sans réserve, l'invité.
Et on se retrouve avec notre invité, Maître Guilain Benassa, auteur de « On marche sur la tête » aux éditions de l'Artilleur, pour parler de l'état calamiteux des institutions françaises après cette dissolution incompréhensible. Quelles est, selon vous, les options sur la table? Alors, vous le disiez tout à l'heure, François Bayrou peut durer, puisqu'il est l'homme du compromis de la 4e République en quelque sorte. Il y a une nouvelle dissolution en juillet, et sinon, quelles sont les armes d'Emmanuel Macron pour continuer et finir son mandat en ayant la capacité de faire des choses? Parce que là, la question, c'est qu'est-ce qui va se passer si ce n'est une dette qui ne va faire qu'augmenter et rien?
Écoutez, alors, je vais essayer de résumer les hypothèses. Première hypothèse, Emmanuel Macron décide de, manifestement, c'est le chemin emprunté actuellement, décide de tout faire pour rester en place le plus longtemps possible.
Oui.
À mon avis, là, dans ce cas-là, il va laisser pourrir la situation. Il la laisse pourrir depuis si longtemps qu'on a oublié que depuis déjà le mois de juin, en fait, tout vient d'un seul responsable, oui. Qui est Emmanuel Macron. Je ne dis pas que les autres, ensuite, ne tirent pas également leur responsabilité, j'allais dire, du jeu, quelque part, mais c'est quand même lui qui a démarré le grand barnum avec la dissolution et qui n'en a jamais tiré les conséquences.
Oui.
Il peut, dans ce cas, tenir, et il a d'autant plus, il tiendra à mesure que les autres rentreront dans la danse, puisque j'allais dire, tous les partis politiques, ou presque, jouent le jeu d'Emmanuel Macron presque benoîtement, petit à petit. Deuxième hypothèse, et je vous cache pas que j'essaye de le rappeler, mais personne ne m'entend, je veux pas faire le lanceur d'alerte chez vous, mais tout de même, on aurait pu, et on peut toujours, forcer Emmanuel Macron à dissoudre l'Assemblée nationale. Ce serait très difficile pour lui, vu la situation politique, mais le problème est le suivant, c'est que, formellement, la dissolution, l'acte de dissolution est un acte du président de la République qui ne peut pas être contrôlé par un juge.
Oui.
Ça veut dire que demain, il y aurait une élection présidentielle anticipée. D'accord? Admettons, il démissionne. on aurait une présidentielle anticipée, on aurait un nouveau président, admettons, au mois d'avril. Selon moi, le nouveau président pourrait dissoudre immédiatement l'Assemblée et donc se présenter devant les Français pour avoir une nouvelle majorité et remettre le pays à l'endroit. Personne ne veut mettre le doigt dans cette hypothèse parce qu'en réalité, on joue le jeu d'Emmanuel Macron, l'a laissé être malgré tout le maître des horloges, oui. Ce qui fait qu'il dicte malgré tout quand même le temps qui passe. Malgré tout. Regardez, il essaye de prendre l'initiative sur l'Ukraine, il va sur les réseaux sociaux, il fait de la TikTokisation du président de la République. En gros, il a un peu la main. Troisième possibilité, nous arrivons en juillet, il attend finalement le jeu normal des institutions, le cours normal des choses, il dissout en juillet. Qu'est-ce qu'il faut imaginer? À mon avis, nous risquons d'avoir le même type de majorité que nous avons aujourd'hui, une majorité introuvable, et d'aucuns diront, c'est pas grave, on trouvera une solution B, une solution C, une solution Z, avec un Bayrou bis ou un Barnier Z à l'Assemblée nationale. Mais je vous cache pas, donc ça, trois hypothèses. Le problème, c'est que tant qu'on ne rentre pas dans le grain, c'est-à-dire qu'on ne pousse pas, que les partis ne sont pas plus offensifs à l'égard d'Emmanuel Macron, qu'il n'y a pas de remise en ordre de bataille à partir d'un président de la République légitime, avec des institutions légitimées, avec un gouvernement légitime, et avec des choses qui marchent à l'endroit, on continuera à marcher sur la tête. Et le problème final, et c'est crépusculaire, c'est même très triste, hein, faut bien s'en rendre compte, c'est que sur le fond, LFI réclame une sixième République, qui n'est rien d'autre que l'institutionnalisation de la cinquième qui marche très mal aujourd'hui en raison des responsables que j'ai des responsabilités évoquées. Ce qui veut dire que plus le temps passe, plus Emmanuel Macron entraîne avec lui tout ce qu'il touche, à la fois sur les questions économiques, sur les questions institutionnelles, sur les questions de responsabilité politique, il entraîne la cinquième dans sa chute, il entraîne aux instants avec lui, parce que sur le fond, il pratique de plus en plus la politique de la terre brûlée.
Oui.
Je casse tout, j'emmène avec moi. Au fond, on verra jusqu'où va le Titanic jusqu'en 2027.
Mais est-ce que ça peut pas aller encore plus loin quand on voit le lead qu'il essaye de prendre sur l'Ukraine et aller jusqu'à une entrée en guerre ou du moins un état d'exception en disant l'heure est grave, lui parle de changement d'air à propos de l'Ukraine. Est-ce qu'il n'y a pas là encore une carte à jouer avec l'article 16 pour dire voilà, nous rentrons dans un état d'exception, c'est pas vraiment la guerre mais c'est la guerre quand même et donc il va falloir faire des choix capitaux, cruciaux et il sauve sa tête de cette façon-là en emmenant la France vers l'abîme.
Écoutez, je vais être précis et j'essaie toujours de répondre à Alexis Poulain à toutes les questions qu'on me pose sans langue de bois. Il y a 2 ans, 3 ans, j'aurais jamais imaginé personnellement, et ça fait un bout de temps que j'écris sur les institutions françaises, j'aurais jamais imaginé qu'Emmanuel Macron se retrouve dans une situation pareille.
Et, oui.
Et depuis la dissolution, je vois les choses s'accélérer et j'essaie de dire depuis le début la même chose. Il faut réclamer la démission d'Emmanuel Macron, pas parce que personnellement je la souhaite, parce que les institutions et la France ne pourront fonctionner qu'à partir du moment où le mode d'emploi est rétabli, où le modus operandi fonctionne de nouveau à l'endroit. Donc, aujourd'hui, vu que tout fonctionne à l'envers, j'aurais jamais imaginé personnellement qu'un président aussi illégitime qu'Emmanuel Macron, quel que soit son nom, ose proposer comme président du Conseil constitutionnel un homme comme Richard Ferrand. C'est totalement invraisemblable. De la même façon, j'aurais jamais imaginé qu'un Michel Barnier ou un François Bayrou, qui pèsent résolument rien du tout dans les sondages, voire dans les votes, lorsqu'on reprend les résultats des législatives anticipées. J'aurais jamais imaginé qu'il y ait une crise de légitimité pareille au niveau gouvernemental. Je n'aurais jamais non plus imaginé que le Mozart de la finance se révèle en réalité un désastre ambulant.
Ouais.
Tout ça pour dire que vu que tout fonctionne à l'envers, je ne suis pas loin de croire qu'effectivement, il essaye d'entraîner notamment l'Union européenne dans une guerre, en tout cas dans un renforcement de la guerre en Ukraine. Pourquoi ? Parce que l'ère du temps qui plaidait pour Macron, l'homme du En Marche, l'homme de la Renaissance, l'homme de la Révolution, comme il disait, cette ère du temps lui échappe d'autant plus aujourd'hui que, petit à petit, tout se ligue contre son idéologie et sa façon de faire.
Ouais.
Je prends l'exemple Trump, je prends évidemment l'exemple de la guerre en Ukraine avec Vladimir Poutine, on peut prendre l'exemple de Giorgia Meloni, de Viktor Orban, de plein de choses. Tout conjugue, tout petit à petit coagule pour fonctionner selon un mode d'emploi qui est l'exact inverse de ce qu'il rêvait de faire. Plus il sera acculé, Emmanuel Macron, plus il sera quelque part le phare ou le dernier phare déclinant d'un monde en ruine, à mon avis, en ruine programmée, plus il risque de se crisper et de tout faire pour conserver les rênes. Donc, pour vous répondre clairement, aujourd'hui, la situation ne peut pas une seule seconde permettre d'imaginer que l'article 16 pourrait être appliqué en 3 secondes. Mmh. Mais demain, dans une situation de crispation, où finalement vous avez verrouillé les institutions, où quelque part, tous vos amis dans cette République des copains fonctionnent avec vous, il n'est pas totalement invraisemblable que des hypothèses inenvisageables soient actionnées. Donc ouais. Peut-être que le pire encore est à venir.
Ce que vous dites, c'est que depuis la dissolution, tout est à l'envers, tout est inversé. Le refus d'accepter le choix des Français, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron n'a plus la légitimité qu'il a pu avoir par le passé. Il choisit des gens pour gouverner qui n'ont pas non plus cette légitimité, puisque le vote des Français étaient clairs, le RN et le NFP en tête, et lui cherche toujours le centre à rester au pouvoir. Pourquoi les oppositions sont si patientes et si dociles ?
Il y a plein de facteurs différents. Premier facteur, on l'oublie, à mon avis, je vais être un peu véhément, mais tout de même, je pense qu'il y a une question de travail. C'est-à-dire que souvent, on ne bosse pas assez les dossiers et on se dit, on se coule dans le jeu institutionnel ou dans le jeu qui vous est imposé parce qu'il est plus simple que de réclamer la rupture. Pour rompre, faut bosser. Vous voyez, penser mal exige de se justifier. Penser bien, quand vous vous fondez dans la masse, quelque part, c'est plus simple. Je vais prendre, et c'est mon deuxième, c'est vraiment là, pour moi, c'est révélateur de tout ce que nous vivons depuis juin. Mmh. Révélateur. Tout le monde dit, on ne peut pas forcer Emmanuel Macron à dissoudre, à démissionner, pardonnez-moi, la Constitution ne le permet pas, et tout le monde dit la même chose. Il y a juste LFI qui tente d'imposer une destitution qui est honnêtement très, très ubuesque de façon pragmatique. Mais je vous donne un exemple, un élément de réponse très simple. Lorsqu'à l'origine, nous avons rédigé nos institutions, et c'est vrai, rien n'indique dans le texte que Emmanuel Macron est forcé à démissionner. Non. C'est vrai. Mmh. Sauf que le problème, c'est que lorsque De Gaulle a répondu à cette question au Conseil des ministres, il suffit de travailler, c'est clairement dans les archives. Quand le général De Gaulle a envisagé cette possibilité du fonctionnement des institutions, son ministre de la Justice lui dit « Imaginez qu'un président de la République, après vous, perde des élections, que fera-t-il, que ferions-nous et quelle sera la configuration des choses ?» Et le général De Gaulle répond « Ça ne paraît pas possible » et il a cette phrase terrible, il dit « Quel visage, quelle figure aurait-il celui qui oserait rester en place ? Figure aurait-il ?
Eh bien voilà, il a la figure d'Emmanuel Macron, vous venez de le dire.
Exactement.
Merci beaucoup. On va devoir arrêter là, Guilain Benessa. On se retrouvera bien sûr pour parler de cette crise qui n'en finit pas des institutions. Je rappelle, vous êtes l'auteur de « On marche sur la tête » aux éditions de L'Artilleur. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On va marquer une courte pause et on se retrouve dans un instant sur Sud Radio jusqu'à 14h. À tout de suite.
Alexis Poulain, sans réserve. L'invité.
Et on se retrouve pour cette deuxième partie d'émission avec notre invité Alexandre Delval, géopolitologue. Bonjour.
Bonjour.
Alors avec vous, on va parler pendant une heure de l'Ukraine, beaucoup, de la diplomatie française aussi. L'élection de Donald Trump aux États-Unis a complètement changé la donne. Il y a eu la reprise du dialogue entre la Russie et les États-Unis. Et clairement, l'Union européenne, la France, même l'Ukraine, sont très loin de la table des négociations. Qu'en est-il aujourd'hui ?
Alors, il y a une raison assez structurelle, c'est que Madame Merkel et Monsieur Hollande, même si après il y a eu une sorte de revirement, on n'a pas vraiment dit ça, en tout cas, Merkel l'a écrit dans son dernier livre, les négociations qui auraient pu, peut-être, ce n'est pas certain, mais empêcher cette déflagration, les négociations dites de Minsk 1 et 2, etc., on a avoué en Europe qu'elles n'étaient pas sincères et que c'était juste pour gagner du temps. Donc, deuxièmement, pour les Russes, Monsieur Zelensky n'est plus dans son mandat, même si, en fait, il y a des raisons pour lesquelles il est encore là. Mmh. C'est tout à fait normal en période de guerre que la Constitution puisse prévoir, c'est-à-dire un maintien sans élection. Mais pour ces raisons, il y a une absence totale de possibilité de négociation aujourd'hui sur d'autres bases que celles qu'ont prévues les Américains et qui court-circuitent totalement les Européens et les Ukrainiens qui sont considérés par les Russes comme des interlocuteurs non fiables. Et de toute façon, qui ne parle pas d'une voix, puisque l'Europe n'est pas un État souverain, c'est un traité. Ce sont des traités, un traité de Lisbonne. C'est un ensemble de traités accumulés depuis les années 54, 57, etc. Mais ce n'est qu'un traité. En relations internationales, surtout en matière de défense, il n'existe que des États-nations. D'ailleurs, au niveau européen, il y a encore le domaine de l'unanimité. Certains domaine réservé régalien se vote à l'unanimité parce qu'un État peut mettre un veto, parce que ça veut dire que c'est une prérogative étatique. Donc on parle dans le vide en ce moment. L'Europe ne peut pas être un acteur stratégique qui décide de l'envoi de troupes ou du maintien ou pas de la guerre. Et j'ai bien l'impression qu'il y a deux possibilités. Soit ce que fait Macron en ce moment est très sincère, mais comme quelqu'un qui n'a pas de muscles et qui dit « je vais flexer mon muscle et », ou alors que ça soit de la com, de la communication, de la communication pour avoir l'air de celui qui aurait été un peu churchillien, c'est à la mode, hein, des années plus tard. Ouais, ceux qui n'auraient probablement pas été, je parle pas de Macron, mais churchilliens sont tous churchilliens, tout le monde est résistant, tout le monde est churchillien, 70, 80 ans, et bien ça sera encore 100 ans après, sera pareil. Mais dans la réalité, donc soit c'est une illusion à laquelle on croit sincèrement, possible, hein. Faut pas toujours accuser les hommes politiques de mauvaises intentions. Soit c'est de la com pour avoir l'air d'être celui qui dira plus tard, mais moi j'ai pas été lâche, je l'avais dit.
Oui, mais justement, au-delà de le dire, il a réuni les chefs de parti hier en format Saint-Denis. Hein, oui. Tout le monde était là pour l'écouter parler sur la situation avec le renseignement français, sur ce qu'il en était. Et oui. Clairement, la ligne aujourd'hui des pro-Europe, pro-OTAN, c'est de dire que la Russie s'arme beaucoup, et que si aujourd'hui l'accord de paix se fait sur les conditions de Vladimir Poutine, alors d'autres pays vont tomber et ce sera la guerre en Europe. Ça, c'est à peu près ce qu'ils disent.
On n'a aucune certitude, mais ce qui est certain, c'est qu'il faut s'armer de toute façon, ne serait-ce que pour faire la paix. Ça, c'est une solution très saine, et c'est la vraie raison pour laquelle on nous parle de menaces existentielles. Oui. L'idée, c'est de préparer l'opinion à accepter un effort de guerre qui va dire qu'on va peut-être encore couper pour les médicaments, pour les aides sociales, pour les retraites, pour les indexations des salaires. On nous prépare clairement à ça, et c'est vrai que si on dit qu'il y a une menace existentielle d'un Ruskov qui va prendre Paris, moi je connais des gens, y compris dans ma famille, qui m'appellent, est-ce que c'est vrai que les Russes vont envahir Paris ?
Mais c'était déjà le cas de l'élection de François Mitterrand en 80, les chars russes devaient arriver sous quinzaine.
Or, sans être absolument dans un discours relativiste ou pro-russe, mais absolument pas, les stratèges, les meilleurs à qui on peut s'adresser, et même, je parle même à des gens de l'état-major militaire français, savent que c'est faux. Malheureusement, la Russie, effectivement, est un ennemi existentiel, peut-être, probablement des pays baltes, très probablement des pays baltes, probablement de la Roumanie qui accueille beaucoup beaucoup de dispositifs américains et atlantiques, et c'est la source de la guerre, c'était l'extension de l'OTAN. Si on pouvait montrer à nos éditeurs une carte des années 90 de l'OTAN et une carte des années 2020 de l'OTAN, après on dira qui s'est étendu au détriment de l'ancien jardin de l'autre. On pourrait vraiment poser la question sincèrement. C'est le problème de fond que veut aborder Trump, et on lui reproche d'aborder le problème de fond qui peut faire en sorte que peut-être, même s'il n'y a pas de garantie, peut-être la Russie pourrait redevenir, je ne dirais pas raisonnable, mais elle n'aurait plus de prétexte pour manger ses voisins, puisque le voisin serait neutre. La neutralité, c'est devenu un gros mot.
La neutralité, on l'a perdue. La Finlande, qui était pays neutre, rejoint l'OTAN.
D'ailleurs, moi, je pose une question à tous ceux qui disent que c'est la garantie. Est-ce que la Finlande a été envahie, ou l'Autriche, quand elles étaient neutres ces dernières années, et ces dernières dizaines d'années, et depuis très très longtemps ? Non. Est-ce que l'Ukraine a été envahie, comme elle l'a été en 2014 en partie, et en 2022 beaucoup plus, lorsqu'elle était neutre ? Non. À l'époque de Kouchma, l'Ukraine n'était pas menacée existentiellement par la Russie. Elle l'est devenue quand elle a voulu passer... Alors c'est vrai que la situation la plus faible, c'est quand vous êtes ni neutre, ni encore membre de l'OTAN. Là, c'est le moment où celui qui veut que vous restiez neutre se dit, c'est le dernier moment pour attaquer. Ouais. Et c'est ce qu'il s'est passé. Ça ne justifie rien, et il faut quand même se préparer à une guerre de haute intensité avec pas que la Russie. D'ailleurs, vous savez, quand on parle avec des militaires depuis une dizaine d'années, et j'ai fait même des interventions à l'école de guerre, on en a parlé aussi avec le CHEM et d'autres structures qui forment nos officiers. Moi, j'en ai vu beaucoup plus qui s'entraînent à une guerre avec la Turquie. Il faut le dire à nos auditeurs, nos militaires, nos pilotes, depuis des années, se préparent à une confrontation directe de haute intensité en Méditerranée avec la Turquie, qui, elle, à la différence de la Russie, n'a pas envahi juste un bout d'un pays qui n'était pas membre de l'OTAN et de l'Union européenne, mais la Turquie menace la Grèce existentiellement en lui prenant ses eaux territoriales, ses ZEE, ses eaux économiques exclusives, et elle envahit toujours 37% de l'île d'un pays membre de l'Union européenne, Chypre, dont personne ne parle. Cette invasion, jamais. D'ailleurs, on l'a même demandé aux Grecs de l'accepter. Donc, si vous voulez, il y a un deux poids, deux mesures, selon que vous soyez puissant ou misérable, disait l'auteur fameux. Ben là, c'est selon que vous soyez atlantiste ou non, on vous pardonne une invasion ou pas.
Ouais, mais il y a aussi le fait que Trump change la donne. Lui annonce, le président américain, que c'est Zelensky qui a provoqué la guerre.
Alors, bien sûr, ça c'est outrancier. C'est pas, on ne tape pas sur une ambulance, on est d'accord. Mais il est vrai que, probablement de manière sincère, et parce qu'il a été désinformé et encouragé à tort, gonflé à bloc par les Anglais, mais les Anglais, c'est ceux qui ont été les plus bellicistes depuis le début. Comme Saakashvili.
Johnson, notamment, hein, voilà, qui avait promis monts et merveilles à l'Ukraine si elle combattait.
Et c'est Johnson, qu'on le sait, qui a arrêté le projet d'Istanbul, un accord qui est passé par le narratif poutinien, c'est quelque chose d'officiel. Et donc, on a poussé les Ukrainiens, et moi j'en veux un petit peu quand même à notre classe politique, même si elle a été sincère, on a poussé des gens à faire la guerre en leur donnant assez pour tuer Duruskov, parce que c'était le vrai but, hein, qui est énoncé dans la Rand Corporation en 2019. Il y a eu un rapport dans la Rand Corporation qui inspire la politique américaine.
C'est un rapport public, hein,
c'est un rapport public, Extending Russia.
Un but est en fait de faire éclater la Russie, hein, en petits états.
Après avoir entraîné la Russie dans un bourbier, dans laquelle elle aurait forcément des dégâts. Et l'idée, d'ailleurs, c'est très intéressant, c'est pas tuer la Russie, c'est la déstabiliser et la faire saigner. On parle dans ce rapport de bloodletting. Et qui est le peuple? Et moi, j'admire leur courage, le plus courageux d'Europe, parce qu'il est existentiellement menacé, parce qu'il est dans un contentieux territorial, historique, politique, idéologique énorme. C'est les Ukrainiens. On n'a rien trouvé de mieux que les Ukrainiens pour aller tuer du Russe. Et c'est ça qu'on a fait. Mais on n'a jamais donné aux Ukrainiens.
C'est-à-dire les États-Unis.
Oui, c'est-à-dire les États-Unis, les Anglais. Les Anglais, depuis de façon deux siècles, ont toujours voulu, toujours préféré. Rappelez-vous de la guerre de Crimée dans laquelle on nous a entraînés en 1853. Les Anglais ont toujours dit mieux vaut les Turcs que les Russes. Et c'est l'obsession des Anglais, bloquer les Russes en mer Noire.
Historiquement, c'est une stratégie politique. Pourquoi cette russophobie britannique ?
Parce que la Grande-Bretagne, en tant que puissance européenne extérieure au continent, mais insulaire, elle a toujours dit « Moi, ma politique en Europe doit consister à diviser les Européens. » Et comme les Américains qui ont repris la stratégie de Mackinder et aussi l'Américain Rimland, Spikeman pour le Rimland, c'est empêcher toute soudure, toute coopération entre les deux poumons les plus forts des deux Europes, hein, celle orthodoxe, celle catholico-protestante, l'Allemagne et la Russie. Et ça, c'est une obsession de tous les stratèges américains jusqu'à Trump. Et ce qui est formidable, on a enfin des stratèges aux États-Unis qui sont pas les plus imbéciles, parce que quand même Trump a été inspiré notamment par Kissinger, hein, qui vous disent peut-être que tout cela, c'est une vieille stratégie qui peut nous conduire à une guerre nucléaire, parce que si la Russie est acculée, elle a quand même quelque chose qu'on n'a pas l'Irak. Hein, on voudrait faire. J'ai vu hier sur LCI une Ukrainienne probablement très très sincère qui disait non, il faut botter les fesses à la Russie, l'agresser et en finir à la Russie avec une guerre de tout l'OTAN contre la Russie. Et c'est vrai que tous les matériels de l'OTAN pourraient faire très mal à la Russie en Ukraine. On pourrait. Mais à quel prix? Et avec quelles conséquences? Éthique de responsabilité. Il n'y a pas que l'éthique de conviction. Donc j'ai bien peur qu'en ce moment, ce soit de la gesticulation permanente, parce qu'on ne peut pas envoyer plus de 30 000 hommes. J'ai vérifié au téléphone par un de mes amis qui travaille. Avec tout l'OTAN, on peut lever une centaine de milliers de personnes, mais il en faut 100 000 pour en avoir 30 000 sur place. Vous savez, c'est comme quand on surveille quelqu'un, il faut à peu près 15 personnes pour surveiller un terroriste. Mais il faut toujours plus que ce qu'on amène. Donc pour avoir 30 000 hommes sur place, c'est-à-dire dixième de ce que réclame Zelensky, eh bien, on n'arrive même pas à être d'accord pour envoyer 30 000. Macron est ressorti, en fait, avec une preuve du fait que son leadership n'a pas été accepté par les autres. Et les plus anti-russes, les Polonais, disent « Moi, j'y vais pas. Parce que moi, je veux garder mes hommes pour moi au cas où les gens retrouvent leur... » Vous voyez, c'est une cacophonie, c'est de la belle communication, mais c'est le wishful thinking.
On va parler de ce wishful thinking. On va marcher une courte pause et puis se retrouver dans un instant. 0826 300 300. Si vous souhaitez poser des questions à notre invité, Alexandre Delval, sur ce conflit ukrainien et ce qui change la donne avec Trump et Poutine. À tout de suite.
Alexis Poulain, sans réserve, l'invité.
Et on se retrouve en plateau avec notre invité Alexandre Delval, géopolitologue, pour parler de cette résolution ou pas du conflit en Ukraine. On a l'impression que Trump avait promis de résoudre ce conflit en 24 heures. Il veut que ça aille vite. Hein. On voit bien que ses déclarations aujourd'hui, le fait que les ministres des Affaires étrangères, qu'une délégation russe et américaine se soit rencontrée au Proche-Orient, montre que les choses changent et avancent. Et pourtant, de ce côté-ci du mur, puisque c'est le retour de la guerre froide, de la guerre chaude, on a l'impression que les leaders européens ont peur de la paix.
Oui, alors j'aime beaucoup votre question. Je regardais encore LCI, parce que malgré le fait que je ne suis pas d'accord, c'était quand même une émission qui parle de géopolitique tous les soirs. Et au moment où il y a eu cette première lancée de Trump qui veut se réconcilier avec Poutine, il y a même des gens, je ne sais pas si c'est un lapsus sur le plateau de Rochebain, qui disaient il y a peut-être encore un espoir que la guerre continue. Je croyais avoir mal entendu. Après, ça a été repris par la suite. Oui, oui. Alors, en gros, si vous êtes pour la paix, pour éviter une guerre qui pourrait très mal finir en nucléaire, vous êtes un Munichois. Alors, ça, c'est très intéressant. L'instrumentalisation permanente de la Seconde Guerre mondiale. Oui. Quand on a fait la guerre en Irak, on avait un Hitler à Bagdad. Milosevic était également un Hitler, le journal Le Monde le dépeignait à la fois porcin et nazi. C'est vraiment une obsession. On dirait que l'Occident n'arrive pas à raisonner autrement qu'avec cette grille de lecture, qui est celle de la réduction ad hitlerum. C'est le point Godwin, c'est assez extraordinaire. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être sortir de ça et faire des analyses un peu sérieuses.
Trump aussi a été taxé de nazi pendant la campagne sur les plateaux du service public de l'information en France.
Vous remarquerez, même Macron lui-même, quand Macron avait accepté de lancer un projet de loi qui était un peu plus capable de durcir les critères d'entrée des migrants légaux et illégaux sur le sol français, certains avaient également traité Macron de concession envers l'extrême droite. Et donc, l'extrême droite, ça fait quand même toujours penser au nazisme. Ouais. Et donc tout cela est assez regrettable parce que quand on est dans l'émotion absolue et des références, parce que bien sûr j'ai quand même une énorme empathie pour ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, dénoncer l'instrumentalisation, ce n'est pas relativiser ce qui s'est passé. Je dirais que c'est un affront permanent envers les morts de la Shoah que de déterrer leurs cadavres pour gagner un débat. C'est permanent. Regardez même Bayrou. Si demain Bayrou continue à être poli avec un parti qui est le premier parti de France, il va être traité lui aussi de faire de la réduction. Oui. Aujourd'hui, personne n'échappe à la réduction des terroristes. On a même traité d'ailleurs, je ne suis pas là pour défendre son parti, moi je suis LR, mais quand Éric Zemmour, juif, pratiquant, qui aime sa synagogue, on fait quand même mieux comme antisémite que quelqu'un qui est un juif pratiquant et qui n'a jamais renié sa propre... Non, maintenant, un juif pratiquant peut être un nazi. Tout le monde peut être un nazi.
Oui, c'est-à-dire que
même les victimes historiques du nazisme sont des nazis. En fait, aujourd'hui, et c'est grave, c'est une banalisation, un de mes élèves un jour me disait « je suis facho ». Je dis « mais facho ou fasciste ?» Non, moi, je suis même fasciste, peu importe. Je dis « c'est quoi pour toi ?» À force que tout le monde traite tout le monde de facho, pour lui, c'était pas du tout un critère d'extrême droite au sens science politique, c'était être politiquement incorrect, être un peu alternatif, comme c'est souvent le cas d'être traité de fasciste quand vous êtes dans une pensée qui n'est pas celle, en gros, du globalisme sans frontiériste. Il avait assumé le terme sans même savoir que c'est un mot qui est grave. Ceux qui ont été victimes du fascisme, du nazisme, c'est que c'est un terme grave. Donc on a une banalisation. Ceux qui veulent réduire ce danger, en fait, l'augmentent, puisqu'ils rendent sympathique. Si vous et moi, et si tout le monde peut être fascisable, même Macron, même Bayrou, finalement, les fachos sont sympathiques. Vous voyez, ça banalise.
Par rapport à cette histoire de la Seconde Guerre mondiale, il y a aussi la réécriture qui est en cours, c'est-à-dire d'oublier le rôle de la Russie soviétique dans la libération du continent du nazisme. Russie non invitée aux célébrations des camps de la mort, Russie non invitée au débarquement, et
20 millions de morts,
20 millions de morts sur le front de l'Est, et cette volonté de minimiser l'effort de guerre russe, soviétique à l'époque, dans la chute du nazisme.
Oui, c'est quelque chose qui est assez stupéfiant et c'est bizarre parce que c'est tous les pays orthodoxes qui en sont victimes. Vous savez qu'Hitler avait un problème avec les orthodoxes et les slaves et les orthodoxes en général. Les Grecs ont offert une résistance incroyablement, enfin au niveau en proportion, héroïque par rapport à d'autres peuples catholico-protestants. Les Serbes qui ont caché Madeleine Albright quand elle était jeune, juive qui risquait d'être tuée par le régime fasciste croate et bosniaque musulman de Ante Pavelić, eh bien, ces Serbes qui ont caché des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et qui étaient une résistance terrible pour les nazis disaient c'est des coriaces les Serbes. Ceux-là, ils nous ont donné du fil à retordre. Ceux-là aussi, on les a nazifiés pour justifier la guerre du Kosovo dans les années 90.
Guerre, d'ailleurs,
et les Russes sont également nazifiés. Donc, les trois peuples qui ont le plus résisté en proportion en tant que peuple face au nazisme, beaucoup plus que les Européens de l'Ouest, bizarrement, c'est ceux-là qu'on traite de nazis tout le temps. En tout cas, les Serbes et les de nazis ou de stalino-nazis ou les plus terribles, les plus grands égorgeurs. Et par contraste, moi j'adore les contrastes, un vrai égorgeur professionnel, qui est un égorgeur modéré, qui est aujourd'hui à la tête de la Syrie, alors lui on le réhabilite. Et on nous dit qu'aujourd'hui, Macron nous disait que pour prouver qu'il y avait une menace existentielle, les Russes organisent des attentats terroristes en Europe. Alors moi, je ne veux pas minimiser ce qu'ont fait les Russes. Il y a eu même parfois des assassinats. Mais alors là, parlons des assassinats. Si un pays qui organise des assassinats chez vous dans le cadre de covert action, d'opérations que tous les services de renseignement peuvent faire. Alors dans ce cas, les Américains sont en guerre existentielle contre nous. Ils ont assassiné des gens sur le sol européen et kidnappé, alors là, énormément, et enlevé, et avec des prisons illégales en Europe de l'Est, etc. Israël, probablement pour de très bonnes raisons, a fait assassiner des gens qui travaillaient sur un programme nucléaire en France, en collaboration avec nos services sur le sol français. Alors dans ce cas, et les Turcs ont également fait disparaître plusieurs personnes dans le 10e arrondissement ces 10 dernières années. Alors ça en fait beaucoup des pays qui sont en guerre existentielle avec nous. Autre critère pour Macron, un pays est en guerre existentielle quand il fait du hacking ou de l'ingérence. Alors si on reprend ce critère de la guerre existentielle, les Américains sont en guerre existentielle contre nous. Mitterrand l'avait dit à Georges-Marc Benhamou, cette guerre économique avec le pillage de données, le hacking. La NSA, la National Security Agency, donc la deuxième grande agence qui fait beaucoup de pillage de données, elle pille, elle espionne et elle fait du hacking. Alors dans ce cas, si c'est ça le critère de l'ennemi...
Quel, puisque les États-Unis sous Obama ont écouté les chefs d'État européens, et là ça n'a pas fait du tout de vague. Il y a eu un silence gêné et puis rien. Mais
ce qui est intéressant, c'est que l'ingérence... elle est condamnable, et je veux bien dire qu'elle soit condamnable, uniquement, c'est encore une fois La Fontaine, hein, selon que vous soyez... Ben là, c'est pas selon que vous soyez fort, c'est selon que vous soyez du côté de l'OTAN ou pas. L'ingérence est tout à fait acceptable quand elle vient de l'atlantisme, de l'USAID, que M. Trump a fermé récemment. Vous savez que l'USAID, c'est une agence de développement pour nos auditeurs, qui a servi de super habillage, comme la National Endowment for Democracy, pendant des années, pour faire des opérations que jadis la CIA faisait en direct. Elle payait directement des révolutionnaires ou des manifestants. Et ça, c'était un peu trop, c'était un peu trop grossier en Amérique latine. Et à partir des années 90, donc sous Clinton, puis ensuite sous Bush fils, c'est devenu à travers des ONG qu'on retrouve dans toutes les révolutions orange.
Le Maïdan en 2014.
Maïdan, orange, disons plutôt la tulipe, tulipe pour Kyrgyzstan, Khmara, Pora, toutes ces révolutions de couleurs. Nos auditeurs peuvent vérifier sur Internet. C'est pas du narratif pro-russe. On retrouve le point de l'association Canvas. On retrouve les logos de Albert Einstein Foundation, du génial Gene Sharp, qui a conçu tout ça, des opérations de guerre par action civile, des guerres non militaires, par retournement de l'opinion, fabrication du consentement, comme dit Noam Chomsky. Tout ça, ça a été de l'ingérence permanente, où on a renversé les États. Et c'est l'origine de la guerre en Ukraine. Si on n'avait pas renversé en soutenant, quand on fait fuir quelqu'un de son palais présidentiel parce qu'il menace d'être buté, et qu'il y a des gens qui ont récupéré une révolution douce pour tirer dans le tas, et que nous, on soutient ça, alors que le type qui fuit son palais présidentiel, il a été élu sous observation internationale, pas un truc bidon, et reconnu. Il est élu depuis 2010, on le fait fuir, et nous, on soutient des gens qui font fuir militairement, manu militari. Et ça, c'est pas de l'ingérence, ça, mais c'est bien pire que tout ce que fait la Russie ou la Chine, ou même l'Azerbaïdjan qu'on a dénoncé en Nouvelle-Calédonie. Tous ces pays, c'est de la piste à fourrette, à côté de ce qu'ont fait les Anglo-Saxons, parce que c'est eux, c'est toujours les Anglo-Saxons. Les Anglo-Saxons, vous savez, ont une agence, un accord de renseignement qui s'appelle le Five Eyes, et les cinq pays anglo-saxons coopèrent avec les GAFAM et avec le système PRISM d'espionnage international de la NSA. C'est ce qu'a dit Snowden, c'est pour ça qu'il était recherché. On nous espionne on fait de l'ingérence en permanence.
On va en parler justement de cette ingérence et de l'organisation et la façon de voir avec le bouclier pour la démocratie que l'Union Européenne est en train de mettre en place également. On va marquer une courte pause et se retrouver dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite.
Alexis Poulain, sans réserve, l'invité.
Et on se retrouve avec Alexandre Delval, géopolitologue, pour parler de ces derniers développements, concernant la guerre en Ukraine et potentiel accord de paix qui arriverait sous la pression de Donald Trump. Emmanuel Macron parle de la Russie comme d'une menace existentielle pour les Européens, mais est-ce que c'est pas du côté russe, l'OTAN, qui est la menace existentielle? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, ce terme de menace existentielle?
Alors, ce que vous faites, c'est un exercice très intéressant qu'on fait en géopolitique. Et c'est mal vu dans le domaine de la morale et de l'idéologie, mais en géopolitique, on le fait. Moi, je le faisais beaucoup avec mon maître, le général Gallois, l'inventeur de la force de frappe nucléaire française. Il nous faisait faire des sortes de jeux de rôle. Et mettez-vous à la place du leader palestinien. Et dix minutes après, ou un quart d'heure après, maintenant, raisonnez en général israélien. C'était un exercice extrêmement intéressant. Et là, vous venez de le faire, parce que pour les Russes, la menace existentielle, c'est... pas uniquement l'OTAN, qui n'est qu'un traité. Hein. L'OTAN, c'est qu'un bout de papier. Si vous êtes membre de l'OTAN, mais qu'il n'y a pas de missiles, d'antimissiles, de bases, de soldats, de bases tournantes, de radars et de bases de la CIA, ça va. Mais l'Ukraine était devenue un pays qui avait 12 bases de la CIA. L'Ukraine était devenue un pays, et je ne l'invente pas, on peut retrouver la vidéo de George Friedman, le plus grand stratège actuel américain, qui inspirait beaucoup le département d'État, mais surtout le Pentagone. Dans une vidéo qui s'appelle « C'est cynique, c'est immoral, mais ça marche », il rappelle qu'en 2015, il en est tout fier, il rigole d'ailleurs, il présente son bouquin, « Nous avons fait exprès de dépêcher le général Hodge américain, chef d'État-major, en Ukraine, pour provoquer les Russes, pour faire des décorations à des soldats ukrainiens que l'on ne donne que aux soldats de l'armée américaine, pour bien que les Russes comprennent que c'est même pas que l'OTAN, l'Ukraine, c'est l'Amérique. Imaginez un taureau, ça s'appelle un chiffon rouge.
Ouais, c'est ça.
Chiffon rouge. Et donc, bien sûr, si on dit tout ça, je comprends... Les Ukrainiens, je les comprends quand ça les choque d'entendre ça. Ils sont pas dans l'émotion, eux ils sont dans la survie physique, oui. Ils ont des morts. Je peux comprendre qu'ils ne veulent pas l'entendre. Mais nous qui ne sommes ni Ukrainiens ni Russes, nous pourrions comprendre ce qu'avait compris Chirac, ce qu'avait compris Sarkozy à l'époque, c'est que si on ne comprend pas un minimum, si on se met pas un tout petit peu à la place de l'autre pour voir ce qui, chez lui, est tout à fait inacceptable. Alors on peut dire, mais moi je m'en fous que ça soit inacceptable pour lui. Oui, mais si ça finit en guerre nucléaire, bah, ça valait peut-être le coup de garder l'Ukraine neutre. Oui. Ça aurait évité déjà 300 000 morts ou 100 000 avec les blessés, d'autres disent 1 million.
Nous, on n'a pas les chiffres. Hein.
C'est comme la guerre du Kosovo.
C'est impossible d'avoir les chiffres.
À la guerre du Kosovo, le monde disait 1 million, après ils sont arrivés à 100 000. Alors à un moment, il y avait plus de femmes violées que de soldats et de miliciens serbes. C'était complètement ubuesque. Et on a su des années plus tard que l'opération fer à cheval du Kosovo, c'était moins de 4 000 morts. C'est déjà énorme, oui, c'est déjà trop. Beaucoup, hein. Ouais. Bien sûr, c'est beaucoup moins que Srebrenica. Donc si vous voulez, on est dans le délire total. Et le problème de l'Europe, c'est qu'elle est peut-être sincère, j'y pensais encore hier, il y a peut-être une part de sincérité. Quand vous êtes dans le moralisme, que vous avez remplacé l'identité, la stratégie, par des postures idéologiques, oui. Où on divise le monde entre démocratie, démocrature, c'est même pas les dictatures. Déjà, si vous êtes une démocrature ou une démocratie illibérale, comme Orban, qui est quand même élu à 70%, vous êtes déjà un ennemi de la démocratie. Oui. Si vous voulez, la démocratie de nos élites, ce n'est plus une démocratie qui tient compte de ce que veut le peuple, c'est une démocratie représentée par des gens éveillés, c'est-à-dire les juges. Que ce soit des juges de tribunaux ou de cours constitutionnels.
C'est ce que dit Jed Evans, le vice-président américain, lorsqu'il va à la conférence de sécurité de Munich. Oui. En disant, je peux rien pour vous si les leaders européens ont peur de leur peuple.
J'ai aimé quand il a dit je peux rien pour vous, parce que j'ai lu tout le texte, c'était pas du tout insultant. Non. Il n'y avait pas de, j'ai même pas senti vraiment de mépris. J'ai senti, vous savez, j'ai souvent parlé avec des Américains.
En fait. Ouais,
j'ai souvent parlé avec des Américains d'origine européenne, parce qu'ils sont presque tous d'origine européenne quand ils sont pas issus de l'esclavagisme, parce que l'Amérique est quand même coupable de tout ça. Eh bien, ils sont souvent nostalgiques de leurs racines, et ils ont véritablement, vous savez, comme un fils d'immigré italien que je suis, qui idéalise un peu le pays d'origine, eh bien, ils sont vraiment tristes de voir que le pays de leurs ancêtres devient un pays qui est en train d'organiser sa propre disparition. Et c'est pour ça que je voulais lire la définition de menace existentielle dont a parlé M. Vance. Il a dit, la vraie menace pour vous, c'est pas la Russie et la Chine, une immigration de masse qui risque de changer vos nations, de les faire disparaître, parce que ça deviendra autre chose. Et c'est intéressant parce que la définition stratégique de la menace existentielle, c'est la suivante. Une menace existentielle pour une nation souveraine désigne un danger qui met en péril l'intégrité, la survie et la continuité de cette nation en tant qu'entité politique, sociale et culturelle. Donc il y a la dimension civilisationnelle, culture, oui, identité. Oui. Il s'agit d'un risque qui pourrait entraîner la perte de son indépendance, mettre en danger physiquement la population entière, puis mettre en danger son territoire ou sa stabilité fondamentale. Cela peut inclure des attaques militaires à grande échelle, une invasion étrangère, des actes de guerre nucléaire, des crises politiques internes graves menaçant l'ordre constitutionnel ou des catastrophes économiques et sociales qui compromettent son fonctionnement même et sa gouvernance. On est quand même assez loin de ce que fait la Russie en France. Mais en même temps, j'ai beaucoup d'empathie pour les Ukrainiens qui se battent.
Oui. Eux, ils sont dans la menace existentielle.
Eux, ils sont dans une menace existentielle. Ça, aucun doute. Peut-être les Polonais, même si ça ne s'est pas encore traduit. Voilà, une menace, donc, elle doit être incarnée. La menace, ce n'est pas le terrorisme, par exemple. Depuis des années, on nous dit, à un moment, c'est le virus. La menace, c'est le virus. Après, la menace, c'est le terroriste. Non, c'est le terrorisme. Or, le terrorisme n'est qu'un mode d'action. La menace, elle est toujours incarnée par un acteur, qui est un humain. En général, ce n'est pas un animal. Sinon, c'est une catastrophe naturelle ou animale. Mais c'est autre chose. Quand on parle de menaces et d'ennemis, premier cours de l'école de guerre de mon ami général Gallois, quand il enseignait à l'école de guerre, c'est définition de la menace qui met en péril existentiellement trois composantes. Territoire, population et institution. Est-ce que la Russie a détruit nos institutions? Non, elle les a peut-être critiquées, il n'y a pas que elle. Le Qatar le fait permanent. Le Qatar, par exemple, moi j'ai fait une émission un jour dans chez Al Jazeera, où j'étais l'ordure, parce que je disais, je comprends qu'en Europe, il y ait des lois qui interdisent un antisémitisme radical, notamment qui débouche sur la négation de la Shoah. Et j'avais tout un parterre de personnes avec des barbes assez longues. Mais moi, je m'en fous, je suis pas là pour juger. Mais j'ai constaté que j'étais l'ordure parce que j'étais contre l'antisémitisme. Et pour eux, dans leur rhétorique, c'était l'Europe limiter les libertés d'expression parce qu'on empêchait de nier la Shoah. Vous voyez c'est une radio qu'on n'a jamais interdite.
La position de J.D. Vance ou des Américains.
Voilà. C'est une radio, une télévision qu'on n'a jamais interdite. Ouais. On n'a jamais interdit Al Jazeera, qui depuis des années, après avoir relayé Al-Qaïda, à l'époque où Al-Qaïda envoyait des cassettes, rappelez-vous, 2001, elle relaie systématiquement l'antisémitisme le plus djihadiste, le plus meurtrier, et elle relaie systématiquement les griefs, les leitmotifs de nombreux mouvements qui, eux, sont des menaces existentielles, parce que la menace existentielle, ça peut être un acte terroriste. Ouais. Alors j'ai cherché, il paraît que Macron dit que les Russes ont fait des actes terroristes, perpétré des actes terroristes en Europe. Lesquelles? J'ai pas trouvé. Oui. Alors, il y a eu des assassinats, on l'a vu déjà tout à l'heure, probablement.
L'affaire Skripal, en
Bretagne,
si
on ne sait pas vraiment qui c'est. Moi, ce que j'ai su un jour, en enquêtant sur le phénomène oligarchique pour un article universitaire, j'ai vu qu'il y a beaucoup d'oligarques qui ont fait assassiner. Déjà, quand ils ont pris l'Union soviétique, ils s'assassinaient entre eux. Mmh. Et beaucoup ont continué à s'assassiner également aussi dans d'autres territoires. Donc, admettons que ça soit les Russes. De toute façon, on n'a pas la preuve absolue. Et c'est pas ça qui caractérise la menace existentielle. Sinon, il y a pas mal de pays qui le sont.
Mais pourquoi Emmanuel Macron utilise ce terme de menace existentielle concernant
la Russie? Pour nous faire admettre une augmentation des budgets militaires. Et là, c'est peut-être une bonne raison. Je vais choquer nos auditeurs. Après avoir eu l'impression d'être anti-Macron, ils vont dire « Ah, mais il est pro-Macron ». Pas du tout, j'essaie d'être objectif. Pour faire accepter, c'est ce qu'on apprend en théorie de communication politique, pour faire accepter quelque chose à quelqu'un, on doit procéder comme un séducteur qui a des mauvaises intentions avec une femme honnête. C'est-à-dire, on cache son véritable objectif. Parfois, il peut être aussi honnête, dans certains cas de manipulation, mais on n'avoue pas le vrai motif qui risquerait de susciter un non. Alors, on invente une histoire soit séduisante, c'est le violon, soit de seconde option, la peur. Comme pour réduire les libertés sous le Covid, c'était la peur. Les enfants aussi devaient être hyper vaccinés, etc. Alors qu'on aurait pu, comme disait Raoult, vacciner que les gens en santé fragile, etc. Donc la peur est un aliment, est un élément fondamental, comme la séduction, c'est soit l'un, soit l'autre, pour faire accepter à des peuples ce qu'ils ne veulent pas accepter, ce qu'on appelle la fabrique du consentement.
Oui, c'est ce que disait Julian Assange sur les guerres. Les peuples ne veulent pas la guerre, il faut leur vendre la guerre par des campagnes de marketing, et on est bien dans ce moment-là de l'histoire.
D'ailleurs, il faut relire le livre du plus grand stratège, c'était le neveu de Freud, l'homme qui a créé les premiers kits les premières techniques de manipulation
Edouard Bernays
pour convaincre l'opinion. Il a convaincu les gens à fumer, boire de l'alcool, le petit déjeuner avec du bacon. Il a fait entrer en guerre l'Amérique. Il a convaincu avec des phénomènes de peur, de séduction. En fait, c'est une ingénierie sociale.
Oui,
c'est un véritable métier. Moi, je connais des lobbyistes dont le métier est de changer l'opinion, parce que nos élites, quand même, qui ont beaucoup recours à ce genre de techniques, elles pensent
justement,
que l'opinion pense mal. Donc, il faut le fabriquer.
Sur les lobbies et l'influence des lobbies, l'Union européenne donc veut se préserver des ingérences étrangères et a lancé ce bouclier pour la démocratie en Europe mené par Nathalie Loiseau de la majorité, enfin l'ex-majorité présidentielle au Parlement européen. Or, il se trouve que Nathalie Loiseau navigue dans la galaxie de la Fondation Soros, comme beaucoup d'autres, d'autres qui vont faire partie de cette commission également. Et on a l'impression que, encore une fois, c'est un outil d'ingérence, en réalité, de lutte entre plusieurs fondations et plusieurs...
Mais là, c'est une ingérence acceptable, parce que c'est l'ingérence des globalistes atlantistes.
Pourquoi ?
George Soros a à peu près acheté, ou pris en compte, comme on dirait dans le renseignement, 230 députés. C'est à peu près un tiers du Parlement européen. On a la liste. Moi, quand j'étais assistant parlementaire il y a très très longtemps pour un député italien, je précise de l'Udici, donc l'Unione del Centro, centri. Nous avions la liste qui circulait des députés déjà pris en compte par l'organisation de George Soros.
C'est-à-dire qui parlait avec la fondation.
Qui était pris en compte. Donc ça veut dire, ça montre bien ce que ça veut dire. Ça peut être des pressions, ça peut être de la séduction, ça peut être la séduction idéologique, ça peut être de l'achat, ça peut être des voyages, ça peut être plein d'autres choses, ça peut être des formations dans un bel endroit à Marrakech pendant une semaine. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des formations à Marrakech pour préparer des révolutions de velours. Hein. On peut très bien aussi inviter les députés. Et donc tout ça, c'est une ingérence acceptable. Le type est hongrois, globaliste, anti-frontières. Donc il est contre la légalité européenne, parce que je m'excuse de le dire à ceux qui pensent que les frontières c'est horrible, mais jusqu'à preuve du contraire, un État-nation, c'est l'entité légale qui peut adopter des lois.
Un territoire, donc.
Et elle a un territoire qui est limité. Je m'excuse de le dire à ceux qui trouvent ça horrible. C'est la légalité. Alors certains trouvent ça illégitime, mais c'est la légalité. Donc Soros a comme agenda, c'est pour ça qu'il finance Save the Children et pas mal d'organisations sans frontières et compagnie qui affrètent des bateaux, souvent pour un but détourné de l'enregistrement. C'est important de le dire, parce que leur but, c'est un agenda anti-frontiériste. Diaboliser la frontière comme quelque chose qui serait un jour, comme me l'a dit le maire de Palerme, Leo Luca Orlando, qui est le plus représentatif de cet anti-frontiérisme, lui aussi très proche de Soros, il disait « La frontière est un instrument de torture, il faudrait la détruire ». Alors moi, je lui dis « Bonne chance, quand tu auras plus de frontières en Sicile et que tu as la Libye juste en face, bonjour ».
Mais
ils sont fous. Mais en général, ils habitent dans des quartiers de haute sécurité,
évidemment,
comme
Léo Luca. La frontière, elle est là. Mais cet agenda antinational, on voit bien qu'il est en train d'être retourné par Donald Trump, qui souhaite en finir avec les young leaders globalistes, en quelque sorte, et mettre en place une nouvelle génération, comme Mélanie et autres.
Voilà.
Le soutien affiché à l'AFD en Allemagne
de
Elon Musk.
Si c'est pas de l'ingérence, c'est le young leader.
Mais là aussi, c'est de l'ingérence. Quand Elon Musk va soutenir l'AFD et donne une telle visibilité à ce parti, c'est juste qu'on change d'outil, mais l'Europe
est toujours
sous contrôle.
Je parle avec des amis qui sont assez macronistes et je respecte leur point de vue. Ils me disaient, moi, ça me choque, même s'il a dit des trucs vrais sur un militant, par exemple, anti-islam musulman, qui était solidaire de celui qui a été tué, qui a brûlé le Coran.
Oui.
Quand même, qu'on incarcère ou qu'on veuille incarcérer ou qu'on fasse un procès à un type qui a juste comme agenda celui de la Révolution française, en gros la liberté de ne pas croire, elle me dit sur le fond, je veux bien. Mais le fait qu'il nous ait donné une leçon de morale, c'est inacceptable. Admettons. Moi, je le verrais différemment. Il y a tellement d'ingérence dans l'autre sens.
Oui.
C'est comme pour les médias. Parfois, on dit, il y a un média, c'est 8, c'est pas normal, ils font du populisme, etc. Mais il y en a 1/10. Toutes les chaînes publiques sont gauchistes, extrême-gauchistes. Moi, je le vois en tant que essayiste. J'ai la plus grande difficulté à aller sur des chaînes publiques. Bizarrement, les seules qui sont ouvertes à des gens tricardisés dans les autres chaînes publiques, c'est les chaînes publiques internationales. Pourquoi ? Parce que le monde multipolaire, les gens qui écoutent à RFI, à TV5 Monde ou à France 24, les gens qui écoutent, c'est pas des bobos français hyper politiquement corrects qui pensent qu'il y a une élite qui doit gérer avec des juges parce que le peuple est débile. Il y a des gens du monde du Sud, qui sont identitaires, qui sont même assez réactionnaires, qui sont conservateurs, qui sont pas du tout wokistes. Et donc, eux, Ils supporteraient pas un truc totalement feutré. Donc bizarrement, c'est les seules chaînes publiques un peu libres. Mais on interdit C8, on interdit C8 et ouais. Mieux, pire, on a interdit pour la première fois des élections en Roumanie, comme a dit Monsieur Vance, parce que il a dit votre démocratie elle est très fragile. Si vous pensez que quelques achats de mots clés sur TikTok, donc qui rendent visible
quoi, là,
ou sur les algorithmes, qui rendent visible un populiste. Si les gens ont quand même voté pour lui, ça prouve que leur discours, son discours, a plu. C'est comme s'il avait un média.
On va
et donc interdire une élection parce qu'il y aurait une influence soi-disant sur des réseaux sociaux.
On va revenir sur le cas roumain. On va juste marquer une dernière courte pause et se retrouver dans un instant pour parler de la Roumanie, de la République des juges ou du moins de la peur des peuples qu'ont nos leaders globalistes. À tout de suite sur Sud Radio.
Ah oui, populophobie.
Alexis Poulain, sans réserve. L'invité.
Et on se retrouve avec notre invité pour parler de cette paix en Ukraine ou pas, Alexandre Delval, géopolitologue. On a l'impression qu'il y a une certaine fébrilité de la part des leaders européens. Emmanuel Macron, qui est démonétisé sur la scène nationale en France du moins, qui a bien du mal, a l'intention de se relancer à l'international et de prendre le leadership de ce soutien à l'Ukraine, d'où les réunions à l'Élysée. Qu'est-ce qu'il en est sorti de ces deux réunions improvisées à l'Élysée où les partenaires européens, l'OTAN, la Commission européenne, ont répondu positivement à l'invitation d'Emmanuel Macron ?
Ce qu'il en est sorti, c'est que les pays baltes sont toujours aussi hystériques, mais à eux seuls, ils ne pourront pas battre les Russes. Les Polonais, ils se préparent à une guerre, ils sont assez paranoïaques, et peut-être ont-ils raison, moi je ne veux rien exclure. Eux, ils se préparent à une guerre, et ils savent que quand on est en danger, il n'y a que soi-même qui se défend.
Ils comptent que sur eux.
Les Américains, d'ailleurs, quand ils nous ont défendus, c'était à la fin, c'était pas au début. Donc, il faut quand même toujours qu'on n'est jamais mieux défendu que par soi-même. Les Polonais, no boot on the ground, comme les Américains. Les Français, ils peuvent lever maximum. Bon, la France, c'est 200 000 hommes, 200 000 militaires, mais on compte tous les bureaux et tout ça. Et la Pologne, c'est 212 000. L'Italie, c'est 160, et l'Allemagne, on est pas loin de 200 000 aussi, et l'Angleterre, elle est dans des chiffres assez proches. Déjà, l'Espagne, c'est 135, puis après, c'est rien. Après, on a des pays qui ont 40 000 hommes, 30 000 hommes, enfin, c'est ridicule.
Et pour l'envoi de troupes en Ukraine, c'est des annonces, mais
ben voilà, ce qui compte,
si
c'est
ça
combien,
arrivait, ce serait...
Ce qui compte, c'est combien de divisions. Et là je comprends Zelensky. Et je comprends l'amertume des Ukrainiens. C'est pas pour faire le démago qui se rattrape, tout à coup il fait des pas vers les Ukrainiens. Depuis le début, on leur promet de pouvoir buter du russe avec des armes sophistiquées, mais pas trop loin dans le territoire russe, ou très peu, pas d'aviation en nombre suffisant pour véritablement sécuriser leur pays, et pas assez de munitions, parce que pour qu'il y ait beaucoup de munitions, il faut qu'il y ait des commandes et une usine privée. Elle veut bien fabriquer beaucoup plus, pas uniquement si elle a une commande d'un mois. On lui dit, voilà, tu vas pas investir pour rien dans ton matériel, tu vas te restructurer. Donc on n'a même pas fait quoi que ce soit pour que notre promesse d'envoi à la guerre, quand on lui a dit de ne pas signer la paix d'Istanbul en mars-avril 2022, on lui a dit, on ira jusqu'au bout, tu vas y arriver. Et il y a cru, sincèrement. Ça nous rappelle Saakashvili. En 2008, Saakashvili, il attaque les Russes à cause de la question, bien sûr, des mouvements séparatistes pro-russes, Ossète et Abkhaz en Géorgie. Et il croit qu'il va gagner, de toute façon, qu'il a l'assurance vie américaine, puisqu'il veut rentrer dans l'OTAN, les Américains vont... Il a pas lu l'histoire, ils ont toujours lâché leurs alliés.
On voit bien ce qui se passe avec Zelensky et Trump.
Et je peux le comprendre, comme c'est une vraie démocratie, où on tient compte vraiment de ce que pense le peuple à chaque élection, quand il y a un changement d'humeur du peuple qui veut plus investir dans une guerre, on arrête tout d'un coup, parce que c'est la politique intérieure prime, et voilà ce qui s'est passé. Donc on est dans une situation assez ubuesque.
Rappelez aussi
nous sommes structurellement, et là je peux l'affirmer parce que j'en ai parlé à des gens très très autorisés au sein de l'armée française, ils me disent en privé, on promet depuis le début aux Ukrainiens une victoire qu'ils ne peuvent absolument pas gagner, c'est totalement impossible.
Sauf au prix d'une guerre nucléaire. Et alors là, personne n'est sûr de gagner.
Quand on est sûr de ne pas pouvoir gagner, mais qu'effectivement c'est dégueulasse de donner une partie d'un territoire d'un pays
à son voisin. Ça, je peux comprendre cet argument. Qui risque ensuite de se sentir autorisé, voire ça va donner des idées aux Turcs qui veulent prendre encore des bouts de Chypre et de Grèce, voire de Syrie, qu'ils ont déjà pris d'ailleurs, etc. Ça, personne ne dit rien pour la Syrie. C'est vrai que c'est dangereux, c'est l'effet domino extrêmement dangereux. Mais dans la mesure où on pense que c'est extrêmement dangereux, dans ce cas, il fallait envoyer 300 000 hommes en Ukraine. Parce que c'est ça, c'est de cela dont aurait besoin Zelensky pour que la guerre non nucléaire conventionnelle soit rééquilibrée.
Zelensky lui a annoncé avoir besoin d'1,5 million de soldats.
Hein. Et il a raison, vous savez pourquoi ? Dans l'absolu, 300 000, c'est le minimum. Mmh. Parce que la Russie, et on ne l'entend jamais dans nos médias, peut mobiliser jusqu'à 10 millions. Vous avez bien entendu. La Russie peut mobiliser, si c'était une guerre existentielle, ils reçoivent des bombes à Moscou, etc., avec le sentiment patriotique. D'ailleurs, plus ils reçoivent des bombes, c'est la stratégie, plus ils arrivent à motiver des nouveaux contractuels. Ouais, ouais. Et là, effectivement, dans un contexte style Seconde Guerre mondiale, où on est vraiment tous en économie de guerre, et c'est existentiel, et sinon on crève, etc., alors là, les Russes peuvent aller jusqu'à 10 millions. Ils peuvent aller facilement jusqu'à 2 millions dans quelques mois. Et donc, effectivement, on est très très loin du minimum vital, sans parler des munitions, on en produit 3 à 4 fois moins. Donc, si vous voulez, tout le reste, c'est du baratin. Après, on peut avoir des postures, ça fait bien, tous ces gens qui travaillent pour des centres, qui critiquent l'ingérence russe, qui animerait tous les géopolitologues un peu réalistes. Bizarrement, ils travaillent tous pour la Fondation Ford, pour l'Institut Royal Anglais, pour l'Institut for War. Ah, c'est bizarre quand même. Ils ont tous des intérêts également professionnels. Et c'est leur, moi, je leur en veux pas. Moi, à la différence, je les juge pas moralement. Mais eux, qui jugent moralement des gens, en plus, pour avoir comme résultat, ils auront des morts ukrainiens en masse. Certes, en fait, leur haine de la Russie est telle que ce qui compte, c'est qu'il y ait Duruskov qui crève. Ça, c'est bien. On aura sacrifié pour rien plein d'Ukrainiens qui vont perdre leur territoire en plus grande proportion que lors de la paix possible de avril 2022. Mais ce qui est génial entre-temps, c'est qu'on a buté du Russe. C'est ça. La seule rationalité à leur attitude, ça ne peut être que ça pour l'instant. Puisque, je répète, structurellement, ils savent très bien eux-mêmes qu'il n'y a aucune possibilité de vaincre la Russie, et encore moins de faire un regime change qui serait l'issue de la guerre, de la défaite russe. On pourrait vaincre la Russie militairement, parce qu'on a des armes très sophistiquées, mais le problème, c'est que la Russie, elle a une arme nucléaire qui, si elle était vraiment attaqué par toutes les forces de l'OTAN qui ont des armes extrêmement efficaces, on pourrait bombarder Moscou, etc. Là, le problème, c'est qu'à la clé, il y aurait, effectivement, parce que la menace existentielle que j'ai lue tout à l'heure, c'est quand votre pays risque de ne plus avoir la possibilité de continuer, là, la Russie utiliserait le nucléaire. Et c'est pour ça que même si on arrivait à mobiliser en forçant, en arrachant les jeunes à leurs familles, si on arrivait à lever 1 million de personnes, ça pourrait finir encore bien plus mal. Là, c'est carrément même pour les écologistes. Hein. Oui. Bizarrement, les écologistes, ils disent rien. Ah, enfin, s'il y avait une guerre nucléaire, c'est bizarre, ça n'a pas l'air de...
La guerre traditionnelle.
Ils ont tellement peur du carbone que les radiations nucléaires, ça a l'air de ne pas les inquiéter.
C'est étonnant de voir les partis écologistes qui étaient historiquement pacifistes être extrêmement bellicistes sur la ligne atlantiste et ne jamais poser la question du bilan carbone de la guerre. Hein. Ça, c'est une parenthèse.
La menace existentielle, vous avez vu dans la définition, il y a le droit à la continuité historique de Ignacio Igasse. Vous savez, la fameuse phrase, le droit à la continuité historique. Si vraiment, on veut dire quelle est la menace de la France, qui empêche la France aujourd'hui d'avoir sa continuité historique, c'est-à-dire de risquer de ne plus être la France avec sa tradition française, européenne, occidentale, etc., etc. De Gaulle disait aussi un autre mot, mais il est interdit maintenant, parce qu'il disait aussi Europe, blanc, etc. Qu'est-ce qui empêche la France de rester telle qu'elle est la France, aujourd'hui ? Et il a raison, Vance, ce n'est pas ni la Chine, ni la Russie, ni même l'Arabie Saoudite ou la Syrie. C'est une immigration de masse qui n'est pas la faute de ces pays d'origine, mais des sans-frontiéristes européens qui n'aiment pas le peuple. Alors ils veulent changer le peuple, ils veulent le diluer, ils veulent faire un autre peuple qui sera un laboratoire du mondialisme, puisque ce sera un peuple Benetton. Le problème, c'est que c'est peut-être une très belle idée, j'essaie d'être honnête intellectuellement, c'est peut-être une idée très sincère, c'est celle de Soros. Mais on a vu les résultats de tous ceux qui ont voulu faire des expériences raciales, que ça soit la pureté de la race ou les mélanges, ça finit malheureusement en guerre civile. Regardez le Liban, l'ex-Yougoslavie.
Le comte Khaleesi qui était à l'origine du projet européen, qui voulait une société métissée dans les années 30.
Alors, c'est ce que l'on dit, j'ai vérifié. Apparemment, il y a un faux qui est sorti sur lui, son fameux plan de métissage généralisé.
Mais lui avait eu des prises de parole.
Prises de parole, probablement. Par contre, le faux qu'on lui attribue, qui développerait tout ça, je ne l'ai pas retrouvé. Non, et dans Pan-Europa, son ouvrage, très intéressant d'ailleurs, parce qu'il voulait une Europe des nations. Il ne voulait pas un fédéral. Et il ne voulait pas exclure la Russie. Et par contre, il avait dit d'exclure l'Empire ottoman à l'époque. Ouais. C'était encore l'Empire ottoman.
Donc on est vraiment loin du compte. Merci beaucoup, merci Alexandre Delval, d'avoir répondu à nos questions sur la paix en Ukraine, qui visiblement effraie les leaders européens, parce qu'il ne faudrait pas faire la paix de Poutine. On en est loin encore. Hein. C'est simplement
des reprises de dialogue.
Ce qui
est grave dans tout ça, c'est que la guerre était prévisible. Moi, j'ai écrit mon livre le choc global un an avant.
Le choc
et avec Jacques Sopelsa, qui est l'ancien président de la Sorbonne. Et si nous, on l'a su, qu'on ne nous fasse pas croire que le renseignement européen et français également ne savait pas que ça risquait de déboucher sur une guerre.
Merci beaucoup, on va rendre l'antenne et vous retrouver Brigitte Lahaye dans un instant. Restez sur Sud Radio. À plus tard, au revoir.